Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes donc en direct de nos studios à Liévin pour une émission d'une heure, hein, comme chaque vendredi, de 18h à 19h. Et cette émission est rediffusée par nos amis de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, qui nous rediffuse notamment, pour ce qui concerne Radio PFM, le même jour, le vendredi à 20h, le samedi à 7h30 et le dimanche à 14h. Et concernant nos amis de Radio Plus, la rediffusion, c'est le mardi à 12h. Donc Micro Rebelle Hebdo, c'est de l'actualité, actualité sociale, politique, économique, les alternatives dans le bassin minier et au-delà. Micro Rebelle Hebdo, c'est une émission que vous pouvez à laquelle vous pouvez participer en nous suggérant des reportages, en nous proposant des interviews sur l'ensemble des activités que vous menez dans le bassin minier, activités associatives, activités militantes, tout type d'activités. N'hésitez pas à nous contacter, contact@micro-rebelle.fr. Alors aujourd'hui, en studio, à la technique, Luc.
Salut.
Je suis avec Aurélie, comme chaque vendredi.
Bonsoir.
Ou presque. Parfois, l'un ou l'autre n'est pas là. Et nous avons deux invités. Hein. Nous avons Hassan et Aïssa. Alors Hassan va bientôt arriver. Et Aïssa, je te dis bonjour.
Bonjour à tous.
Donc Hassan et Aïssa, qui sont soudanais et qui vont nous parler tout à l'heure, hein, de la tragique actualité actuellement au Soudan. Au programme aujourd'hui, l'agenda culturel, social, politique, que je présenterai avec Aurélie. L'actualité, la revue de presse également, hein, que nous ferons à deux voix, Aurélie et moi. De la musique libre, comme toujours sur Micro Rebelle. Et effectivement, des échanges avec nos invités, Hassan et Aïcha. Alors on va commencer sans tarder par l'agenda social et culturel. Donc que je vais vous présenter avec Aurélie. Et c'est justement Aurélie qui va démarrer.
On se retrouve le samedi 8 juin pour un tournoi de foot à Béthune. À partir de 10h aura lieu la journée d'accueil, la journée de l'accueil des exilés. Au programme de 10h à 18h30, un tournoi de foot avec des jeux traditionnels en bois et du cirque, mais aussi des stands associatifs et des expositions. Une petite restauration sera présente sur place. Puis, à partir de 18h30, un concert de sargue et une auberge espagnole. L'entrée et la participation aux activités et au tournoi sont gratuites. Inscription pour le tournoi de foot au 06 63 15 18 21.
Alors, on reste le samedi 8 juin. Europe. Europe avec un S majuscule à la fin. C'est du théâtre de rue, de la déambulation, du théâtre de terrain, sur un état des lieux des Europes, hein, c'est pour ça qu'il y a le S à la fin, des Europes d'aujourd'hui, croisant intime et politique. Donc théâtre de terrain, théâtre de rue, hein, à destination de tout le monde, hein, idéalement plus de 10 ans. Comment parler d'Europe à l'heure des barbelés de Ceuta, de l'autorité de la Troïka, de la flambée des nationalismes, des générations Erasmus, de la politique agricole commune et de la relative paix continentale depuis plus de 70 ans. À partir de témoignages récoltés sur le continent, Camille Faucher raconte la vie d'Europe, un individu aux multiples facettes. Donc Europe, c'est son nom, hein, un individu aux multiples facettes, à travers une musique évolutive et une scénographie faite de barrières de chantier. Donc c'est dans la rue, c'est dans l'espace public. Déambulation théâtrale, et c'est le samedi 8 juin à 9h15 à Anzin, avenue de Verdun.
Le mercredi 12 juin aura lieu un atelier radio gratuit et ouvert à tous dans les studios de Micro Rebelle. Au programme L'Intox vient à domicile, sortez de chez vous. Les studios de Micro Rebelle sont désormais ouverts à celles et ceux qui souhaitent apprendre ou se perfectionner dans les différentes techniques radiophoniques. Ça se passe le deuxième mercredi de chaque mois de 15h à 17h au 13 rue Victor Hugo à Liévin.
Le jeudi 13 juin, une initiative qu'il nous plaît de relayer à Micro Rebelle. On a déjà eu beaucoup d'occasions de parler d'agriculture paysanne et notamment de l'installation de Jonathan Bétermier en maraîchage biologique à Loison-sous-Lens. Et bien justement, ce jeudi 13 juin à 18h, c'est une rencontre avec l'association Terre de Liens, une rencontre pour la préservation des terres agricoles autour de Lens. Et donc avec Jonathan Bétermier qui sera présent. Il s'agit de soutenir l'installation de Jonathan Bétermier à l'occasion d'un échange ouvert à toutes et à tous. Jeudi 13 juin, salle Galibot, derrière la salle Cuvelier, 92 rue Raymond Spas, Loison-sous-Lens. On va terminer cet agenda par le vendredi 14 juin. Les Polonais du Nord, c'est une conférence de notre ami Jacques Kmiesak, hein, qu'on a déjà eu également l'occasion d'inviter dans nos émissions. La thématique de cette conférence, les Polonais du Nord, un exemple d'intégration réussie, mythe ou réalité. Ça se passe à Saint-Lenoble, à la maison Henri Martel, 164 rue Voltaire. Et malheureusement, on n'a pas réussi à trouver l'heure, donc... Vendredi 14 juin, on imagine que c'est en soirée.
C'est tout pour l'agenda ?
L'agenda est terminé. On va enchaîner par l'actualité et la revue de presse. Donc on va également vous faire à deux voix. Donc la première de nos actualités, c'est les suites des élections européennes. Hein. Elles sont encore toutes chaudes dans les mémoires. On ne va pas ici faire de bilan, mais juste quelques constats. Alors tout d'abord, premier constat, l'abstention est en baisse, hein, tout le monde l'a dit, mais elle reste à un niveau élevé, 49,88%. Alors un tel niveau d'abstention, ça veut quand même et forcément dire quelque chose. Alors dans le même ordre d'idée, on a noté que le total des votes blancs et des votes nuls était de 4,53%. Alors ça signifie que, en gros, 4,5% des personnes qui se déplacent, c'est-à-dire en fait plus de 1 million de personnes, hein, sur les 23 millions qui se sont déplacées, donc 1 million de personnes ont voté blanc ou nul. Alors comme pour l'abstention, ça a aussi sans aucun doute du sens. On pourrait éventuellement en discuter. Alors sur le fond de ces élections européennes, la grande déferlante médiatique a commencé hein, depuis 15 jours maintenant. On ne nous parle plus que de l'opposition entre l'extrême droite et le camp Macron, ou encore entre l'opposition entre les populistes et les progressistes, ou encore entre les libéraux et les nationalistes, etc. etc. La gamme est infinie et il s'agit toujours du même type d'opposition binaire. En clair, le but est de nous faire croire que nous n'avons désormais le choix qu'entre deux faces du capitalisme, le libéralisme de Macron et l'extrême droite réactionnaire de Le Pen. Ce qui est certain, c'est qu'avec ces deux versions du capitalisme, les droits reculent, les droits des travailleurs, des travailleuses, les droits des femmes, les droits des étrangers. Dans les deux cas, les riches s'enrichissent toujours plus et la pauvreté augmente. Il est donc important d'imaginer et de construire une autre perspective que ces deux seuls camps, Macron et Le Pen. Une perspective à construire avec le plus grand nombre, avec les associations et collectifs militants, avec les syndicats de lutte, les organisations politiques, combatives, etc., etc. Alors justement, à propos de lutte et de combativité, dans l'actualité cette semaine, nous avons relevé le débat à Lille, un débat national, un débat public national concernant la gestion des matières et des déchets radioactifs. On sait que d'une manière générale, ce type de débat a souvent pour fonction de faire semblant de consulter les gens pour, au final, faire passer des décisions déjà prises. Eh bien, ce débat de Lille a été perturbé par une joyeuse bande de militantes et militants des collectifs L'Île Radiée, ANV COP 21 et Extinction Rébellion. Je vais lire quelques extraits de leur communiqué de presse suite à la tenue de ce débat, perturbé puis finalement annulé. Dénonçant un débat qui condamne les citoyennes et citoyens à cogérer les déchets radioactifs plutôt que de s'interroger sur la pertinence et l'avenir du nucléaire, une cinquantaine de militantes et militants ont investi la Réunion de manière non violente pour mettre en lumière ce tour de passe-passe démocratique. Ils ont rappelé haut et fort les méfaits du nucléaire, qualifiés d'écocide et de crime contre l'humanité. Ils ont également chahuté les représentantes et représentants du nucléaire pour empêcher leur discours, considéré comme de la communication et non de l'information, en scandant « Sortons du nucléaire, halte au faux débat ». En parallèle, ils distribuaient un tract expliquant leur position et celle des autres associations ayant décidé de boycotter le débat, sortir du nucléaire, la CRIRAD, association contre CIGEO, etc. Un des opposants a pris la parole pour affirmer qu'aucun débat ne sera possible sans sortie du nucléaire. Une heure après son commencement, le débat a été annulé par ses organisateurs et organisatrices. C'était un débat hypocrite et biaisé. En matière de nucléaire, les débats publics ne sont pas instaurés pour rechercher les options les plus satisfaisantes pour l'intérêt général, mais pour donner un vernis démocratique à des décisions déjà prises. Malgré la forte contestation des associations lors des précédents débats publics, deux lois en 2006 et 2016 ont entériné le stockage en profondeur des déchets les plus radioactifs. C'est la même situation pour le sujet polémique du retraitement des déchets. La loi dite de programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit déjà sa poursuite. Ainsi, sur quoi nous invitons à débattre si tout est déjà décidé? Nous sommes d'autant plus sceptiques qu'il n'existe aucun mécanisme contraignant qui garantisse la prise en compte des conclusions. Par ailleurs, comment débattre alors que les chiffres sur le volume réel des déchets et sur leur durée de vie sont qualifiés de faux d'après la CRIRAD, la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité? C'est donc un faux débat pour légitimer la poursuite du nucléaire. S'il est évident qu'une réflexion de fond doit avoir lieu pour statuer sur le sort des déchets, nous contestons que celle-ci puisse se tenir dans le cadre proposé par la Commission nationale du débat public. La maîtrise du cycle de production et la bonne gestion des déchets nucléaires sont des arguments commerciaux fallacieux permettant de rassurer la population et ainsi poursuivre la production d'énergie nucléaire. Nous dénonçons cette hypocrisie. Le nucléaire met en péril notre avenir commun, le risque zéro n'existe pas et l'accident de Fukushima en est un terrible avertissement. Nous exigeons l'arrêt de la production de déchets radioactifs, donc la sortie du nucléaire. Pour les déchets déjà présents, aucun débat démocratique ne peut avoir lieu avant d'avoir enclenché un plan de sortie du nucléaire et un gel de tous les projets d'enfouissement de déchets. Pour un avenir soutenable, l'urgence de la sobriété. Contrairement aux idées reçues, nous pourrions parfaitement nous passer du nucléaire sans faire exploser nos émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il faut s'engager dès aujourd'hui sur la voie de la sobriété en repensant nos modes de production et de consommation. De nombreux scénarios, tels que le scénario Négawatt, démontrent qu'une sortie du nucléaire pour 2035 et un mix énergétique 100% renouvelable d'ici 2050 sont possibles. Dès lors, pourquoi s'obstiner à produire de l'énergie nucléaire pourtant mortifère, autoritaire et de plus en plus chère? Les solutions sont connues, il n'y a plus à débattre, il faut agir. Alors dans la presse locale maintenant, nous avons parcouru La Voix du Nord et Liberté Hebdo. Dans Liberté Hebdo tout d'abord, un article évoque la grève des mineurs en mai-juin 41, c'est-à-dire pendant l'occupation nazie. Une cérémonie était organisée à Montigny-en-Gohelle. Extrait. Une centaine de personnes ont défilé de la mairie au puits du Dahomey, d'où avait démarré la grève contre l'occupant nazi. Après un dépôt de gerbes, le neveu de Georges Dereux, instigateur de la grève avec Michel Brûlé, en a rappelé les étapes. Raymond Fracoviac, secrétaire du syndicat CGT des mineurs du Nord-Pas-de-Calais, a évoqué le courage de ces mineurs qui affrontèrent les nazis, bloquèrent la production de charbon et le payèrent cher dans le camp de concentration de Sachsenhausen, mais aussi dans la répression française. Suite de cette revue de presse dans La Voix du Nord, une brève qui nous a intéressés, concernant les restructurations à La Poste. On s'était presque habitué à tous ces changements amenés par la direction de La Poste concernant les horaires d'ouverture de bureaux, notamment. Eh bien, il semble que, par endroits, la résistance s'organise. Voici la brève parue dans La Voix du Nord. À Grenay, la CGT mobilisée pour le bureau de poste. Le bureau de poste de la commune de Grenay n'est plus ouvert que du mardi au samedi matin. Voilà pourquoi les syndicalistes de la FAPT, la CGT de La Poste, ont mené une action de sensibilisation mardi dernier sur le marché, en pleine journée nationale de la défense des bureaux de poste, entre autres, et du service public. Alors on alterne avec Liberté Hebdo et un article consacré à l'évacuation d'un squat de réfugiés à Lille cette semaine. Comme quoi, entre ce que dit l'extrême droite et ce que réalise le gouvernement, il y a en la matière un large consensus. Nous citons Liberté Hebdo. Évacuation de 200 réfugiés squatteurs. Daté du 8 novembre 2018, sur un mur du squat à l'angle des rues Jean Jaurès et de Valenciennes, à Lille, un avis de commandement de huissier sommait les occupants de quitter les lieux, des bâtiments désaffectés, propriété du bailleur social Partenor. Ces grands hangars vides servaient d'abri depuis 2017 à environ 200 personnes, dont de nombreux mineurs scolarisés, la plupart ayant fui leur pays en Afrique. Ils y vivaient dans des conditions très précaires, sous la tente, et étaient pour la plupart en attente de régularisation administrative. Le 5 juin, à 6 heures, le préfet a fait évacuer les occupants manu militari avec une douzaine d'interpellations à la clé. On retourne à La Voix du Nord concernant le procès de France Télécom à propos des suicides en 2008. Micro-Rebelle est déjà intervenu sur cette question. Quelques extraits sur des témoignages terribles et tellement révélateurs de ce qu'est un management de combat au service des actionnaires. L'un est entré au PTT en 1978, l'autre en 1975. C'est sa veuve qui est venue parler de Jean-Marc Régnier, son frère pour Robert Perrin. Ils dressent tous les deux des portraits qu'on connaît par cœur désormais. Il adorait son travail. Il était fier de France Télécom. Ghislaine Régnier dit que son mari était la joie de vivre, qu'il aimait aller chez les clients, réparer les lignes. Un instant, Jean Perrin s'interrompt devant la photo de son frère. Son manager l'appelait Pépère, Madame la Présidente, la force tranquille. Mais début 2008, tout change. On parle de restructuration, de 22 000 départs, de mutation. On ne nous disait rien, raconte Jean Perrin, qui travaillait dans le même service que son frère. Il laissait courir les bruits, nous disait peut-être. Le but était de déstabiliser le plus de monde possible. Et tous les témoins répètent, on avait l'impression que c'était cela qui comptait le plus, les départs. Alors Jean-Marc Régnier accepte une formation vers la DSL qui n'était vraiment pas son métier. Mais il veut réussir, convaincu que s'il échoue, il se retrouvera sur une plateforme. C'est le bruit qui courait. Il savait qu'il n'aurait pas tenu le coup, enfermé entre quatre murs. Alors il n'en dormait plus, se relevait la nuit pour lire des courbes, des tableaux. Ailleurs, il changerait d'horaire, l'un à Longwy, l'autre à Strasbourg. Les deux hommes s'accrochent, mais chavirent. Le récit devient dur là. Dans la salle, tous les ex-salariés écoutent, prostrés, le récit des deux suicides par arme à feu. Certains pleurent. Fin de citation. On termine cette revue de presse locale en revenant à Liberté Hebdo à propos d'un die-in qui s'est tenu à Lille. On commence à en voir de plus en plus des die-ins. C'est une forme de manifestation dans laquelle les participantes et les participants simulent la mort. To die, mourir, on ne sait plus éviter l'anglais. Donc, simulent la mort en s'allongeant sur le sol et en se couvrant de pancartes et de banderoles. Voilà donc ce que rapporte Liberté Hebdo. Die-in contre les féminicides. La société que nous voulons ne se fera pas sans nous. C'est sur ce mot d'ordre que plusieurs associations féminines ont manifesté à Lille leur dégoût et leur détermination contre les féminicides. 59 femmes en France sont mortes sous les coups de leur mari ou compagnon, dont deux dans la métropole lilloise, en 2019. Les associations ont demandé le respect des textes internationaux contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité des genres. Bien, je transmets le micro à Aurélie pour la suite de cette revue de presse.
Merci. Un article paru dans Politis cette semaine parle des footballeuses de l'équipe de France. En ce moment, à la télé, dans les journaux ou encore à la radio, nous pouvons entendre parler de la Coupe du monde féminine de football qui approche à grands pas. Pourtant, à un autre moment de l'année, et à d'autres moments de l'année, elles passent inaperçues et se font beaucoup plus discrètes que leurs homologues masculins. Si seulement la seule différence entre l'équipe de France de football féminine et masculine s'arrêtait sur le critère de visibilité, ce serait bien. Or, cela s'applique aussi sur le salaire. Les footballeuses gagnent beaucoup moins d'argent que les footballeurs. C'est un fait bien réel. Et pourtant, cela ne veut pas dire qu'elles sont moins talentueuses, loin de là. Aujourd'hui, nous tournons toujours en rond sur les questions du sexisme, des inégalités hommes-femmes, du moins en France. Le cas de ces footballeuses nous montre pourtant parfaitement qu'il y a un problème dans la société française. Le sport, selon l'article, est un concentré de tous les stéréotypes sexistes envers les femmes. En effet, même si en ce moment même, on peut avoir l'impression que l'équipe des Bleus est revalorisée, sachez que c'est un leurre. La visibilité, oui, mais à quel prix ? Comme toujours, la publicité et le marketing n'ont que faire du talent de ces joueuses. Il faut vendre, et cela à tout prix. Alors pour vendre, comme à l'habitude, c'est le corps de la femme qui est une fois de plus mis en avant. Cheveux lissés, short moulin à souhait, posture ambiguë, slogan à ses limites, relate l'article. Selon l'article, l'équipe des Bleus est prioritaire sur l'équipe féminine dans le cadre des entraînements, par exemple. Je cite « Le château est prioritaire pour les Bleus, ça a toujours été comme cela, et ça l'est encore plus depuis juillet de l'année dernière », propos tenu par Corinne Diacre. Mais ce n'est pas justement parce que cela a toujours été comme cela, que cela doit changer. Les femmes aussi ont le droit à leur Coupe du Monde, et celle-ci est aussi importante que la Coupe du Monde masculine. De plus, pourquoi toujours créer une catégorie masculine et une catégorie féminine ? Depuis toujours, on distingue les deux sexes, soi-disant, pour des raisons physiques. Or, qui a dit qu'une femme ne pourrait pas battre Bolt sur 100 mètres ou battre Kylian Mbappé sur une accélération ? Et que faisons-nous des sportifs et des sportives qui ne se reconnaissent dans aucun des deux sexes ou qui en changent ? Peut-être que le problème est là. Si on arrêtait une bonne fois pour toutes de prendre les femmes pour des petits êtres fragiles, qui ne peuvent en aucun cas surpasser les hommes, le sport évoluerait et chacun serait pris en considération, peu importe son sexe. C'est malheureux de se dire qu'aujourd'hui, les seules pubs qui tiennent des propos d'égalité sont des pubs pour protection hygiénique. Dans leur propre domaine, les femmes ne sont toujours pas prises au sérieux, ce qui est fort regrettable.
Bien, merci Aurélie. Luc.
Avant de passer à l'actualité politique au Soudan, on va faire une pause musicale avec un musicien sur lequel je ne pourrais pas vous donner énormément d'informations, mis à part son nom. Il s'appelle Bralitz, avec un Z. Le titre, c'est Douche Manouche. Voilà, si vous voulez essayer de vous rencarder là-dessus, allez voir sur un très bon blog de musique libre, un label qui s'appelle Block Sonic.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité des luttes sociales dans le bassin minier et parfois bien au-delà. On est aujourd'hui avec Aïssa et Hassan, qui sont deux franco-soudanais qui habitent à Arras depuis maintenant pas mal d'années et qui suivent de près les événements tragiques qui se passent au Soudan, les révoltes et aussi la violente répression par la junte militaire au pouvoir. Alors, petit rappel des épisodes précédents de cette contestation populaire historique. Le 11 avril, après 4 mois de manifestations et 49 morts officiellement, après que des centaines de milliers de personnes aient envahi le quartier général désarmé à Khartoum pour réclamer son soutien, Omar al-Bashir est destitué. Omar al-Bashir, chef au pouvoir depuis 1989, sous mandat d'arrêt international pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Alors, Aïssa et Hassan, salut. Est-ce que vous pourriez revenir brièvement, en quelque sorte, sur les raisons de la colère? Comment ça a commencé et surtout, pourquoi? L'origine de la révolte?
Bonsoir à tous, messieurs, dames. Tout d'abord, merci beaucoup, Radio Micro Rebelle, pour cette soirée. En fait, la question sur le Soudan, c'est, pour le moment, c'est très important parce qu'en fait, dans des moments, c'est là une situation exceptionnelle. Des révélations au Soudan, ça a été éclaté depuis le 19 décembre. 2018. Donc, c'était un moment historique parce que le peuple du Soudan sont toujours pendant 31. Il y a un dictateur soudanais qui s'appelle al-Bashir, c'est un dictateur militaire. Il a réussi à avoir un coup d'État depuis 1989. Il est toujours à le pouvoir du Soudan. Donc le peuple du Soudan sont bien souffrir par rapport à ça. Pour l'instant, il y a un moment insupportable le 19 décembre. Donc les gens ont commencé à manifester massivement contre cette dictature. Et cette manifestation, tout d'abord, il a éclaté en ville qui s'appelle Adbara. Tout doucement, après tout de suite, c'est commencé à distribuer un bout de tout partout dans les autres villes, notamment la capitale du Soudan, Khartoum. Donc, des femmes, des enfants, des élèves et des étudiants sont tous réunis, manifestés quasiment tous les jours. Cette manif, tout d'abord, démarrait comme ça. Et après, plus tard, sont présentés à des associations des professionnels du Soudan. C'est lui qui était derrière, mais tout d'abord ça a été caché en bout parce qu'à cause de la sécurité et tout ça. Et notamment, c'est rejoint cette association des groupes de changement et la démocratie. C'est un groupe politique aussi, c'est toujours lutter contre le dictateur. Il y a des tableaux qui sont sortis quasiment organisés, cette manif pacifique. Donc, tous les peuples du Soudan, comme ils sont toujours souverains, sont engagés pour manifester. Donc, largement, aujourd'hui, ils ont réussi à changer beaucoup, beaucoup de choses sur le terrain, parce que partir du 6 avril, c'était un moment changé tout d'abord. C'était un moment... on a eu beaucoup de changements par rapport à tout ce qui se passe. Donc, les manifestants ont commencé à arriver à la quartier général
Ouais, juste simplement, recule-toi un peu du micro. C'est juste une petite précision technique.
Oh, merci.
Il n'y a pas de souci.
Je reviens sur
ça. Mais en fait, ça, c'est un peu le...
Oui, oui.
Mais ça s'est déroulé depuis décembre. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'on a dit... souvent, on a vu la révolte du pain parce qu'en 2018, le prix du pain a été multiplié par 3. Plutôt, de ce que t'expliques, Aïssa, on sent plutôt que voilà, il y a une espèce de lourdeur politique avec un pouvoir dictatorial. Ça veut dire que l'inflation, ça a été le prétexte pour essayer de tout renverser, quoi, en quelque sorte.
Ouais, mais après, je vais rappeler, en fait, j'étais reçu ici dans les micro-rebelles, en fait, là, avant 2 mois, en fait. Depuis le mois de février au mois de janvier, en fait, on a parlé aussi, en fait, de la révolution soudanaise, de la révolte. Mais je rappelais deux petites choses, en fait, parce que ce gouvernement, en fait, ils ont commis beaucoup, beaucoup de génocides au Soudan, en fait, dans quatre coins du Soudan, au plus de répression politique dans la capitale. En fait, c'est qu'est-ce que ça crée, ça? Tout le monde, ils ont cru de début, c'était des révolutions pour des raisons économiques. Mais ça, c'était juste les raisons pour soulever le peuple, pour réunir tout le peuple pour une raison. Mais les vraies raisons, ça fait 30 ans, je répète ça 2 ou 3 fois, c'était les générations, ils ont né dans cette répression politique, en fait. Ces deux jeunes, ils ont subi ce massacre de ce gouvernement. C'est eux, ils ont soulevé. Parce que ça fait combien? Ça fait 30 ans, on essaie avec tous les moyens, en fait, de changer ce gouvernement, mais on n'a jamais réussi. Mais ça, c'est le seul moment, parce que toutes les raisons étaient réunies pour changer ce gouvernement. Et ils ont réussi, en fait, avec toute une manif, finalement, de faire de sit-in devant les quartiers généraux de l'armée au capital de Khartoum, devant le capital, devant cet quartier. C'était le 6 avril. Et le 9 avril, c'était le changement, le premier changement. Mais on va voir dans les discussions. En fait, ils ont pris Al-Bashir, ils ont laissé Al-Bashir parti. Après, ils ont nommé deuxième personne. Et après, les deuxièmes personnes aussi, il est parti dans le deuxième jour, en fait. En fait, le peuple, avec cette manif pacifique, ils ont réussi, en fait, de dégager 2 dictatures en 2 jours. Mais on va parler après.
Le peuple est resté là. Pour eux, il n'y avait toujours pas de changement démocratique. Alors, c'est vrai que, justement, depuis le 11 avril, la destitution de Al-Bashir, le peuple est resté au quartier général des armées et a exigé de négocier les moyens d'une transition démocratique. Alors comment on en est arrivé de justement cette négociation au fait qu'il y ait cette semaine, en tout début de semaine, un massacre où il y a eu plus de 100 morts dans une répression violente pour faire évacuer justement le quartier général des armées?
En fait, une fois la manifestation s'est réussie arriver à la quartier général des militaires du Soudan, les Bob sont bien réussis pour rester toujours manifester sur place, parce qu'en fait, il y a certains généraux qui ont été d'accord avec les manifestants, sont pour étudier le manifestant civil. Donc, cette manifestation était regroupée, presque 6 millions de personnes sont étaient là. Donc, on a toujours réclamé la démocratie et le changement, frais changement pour le politique du Soudan. Ils sont présentés toujours derrière l'association professionnelle du Soudan et les forces de la liberté et le changement. Donc, ces deux groupes sont démarrés des négociations, parce qu'ils sont obligés, le gouvernement actuel, non, sont obligés, le conseil militaire pour négocier avec par rapport à cette transition politique. Donc, ils ont accepté. Cette négociation, ça a été passé beaucoup des étapes. Mais malheureusement, son arrivée sont certaines étapes par rapport au partage de la pouvoir et l'autorité. Donc, c'est bloqué là-bas. Ça n'avance pas. Parce que conseil militaire, c'est toujours parti de l'ancien président ou l'ancien dictateur qui était dégagé le 11 avril. Donc, il a cherché à voir à droite, à gauche, pour rester toujours les mêmes. C'est-à-dire, c'est le changement de fichage seulement. Mais comme le révolutionnaire s'est bien compris cette situation, ça n'est pas accepté bouger niveau le quartier général des militaires du Soudan, sont restés toujours réclamés pour avancer les choses, pour faire un vrai changement. Cet conseil militaire toujours essayé aussi pour avoir gagné du temps pendant un mois, cette négociation continue pendant un mois. Mais le mois dernier, il y a une étape qui est arrivée, n'est pas acceptable aussi, parce que ce conseil militaire commençait, fait des visites à l'étranger, sont visités les Émirats Arabes Unis, et sont visités le Saudi-Arabie, et sont visités l'Égypte. Donc, après leur retour, il y a beaucoup de choses qui sont changées, parce que ce conseil militaire s'était financé. Financière avec des États, des Émirats Arabes Saoudiens et les Émirats. Donc, parce que une certaine vice-président, le vice-président de ce conseil militaire, Himeti, Mohamed Hamdan Himeti, lui, ça a été, c'est le colonel qui guidait tous les rebelles qui sont commis des crimes au Darfour depuis 2003. C'est lui qui, aujourd'hui, s'en arrivé, réussi à arriver comme un fils président. Donc, c'est lui qui aussi, à la tête de cette milice, travaillait comme un mercenaire pour le Saudi-Arabie. On voyait beaucoup de militaires soudanais là-bas pour défendre à la côté des Saudi-Arabiens. Donc, aujourd'hui, à cause de ça, c'était comme une alliance financière avec les Saudi-Arabiens. Pour avoir cette défense, pour avoir cette ça.
Donc, je vais dire quelques mots, en fait, c'est par rapport à pourquoi les négociations exactes, en fait, elle était échouée. Parce qu'en fait, en quelques mots, je vais préciser, en fait, parce qu'en fait, les peuples, ils voulaient vraiment de dégager l'ancien régime de sa racine. Parce que le changement, c'était que les changements de première personne, il dit non, il faut de vrais changements, comment on va faire? Il faut que ce soit de majorité, mais sans pouvoir souffrir. Et il faut de pouvoir souffrir, en fait. Mais
souverain,
mais il demande qu'on sera là comme des civils, et ça, les peuples, ils n'ont pas voulu, en fait. Et c'est qui a échoué vraiment la négociation avec la militaire, le conseil de militaire transitoire, en fait.
Et alors, de là à sortir les armes, à faire appel à des milices du général dont je ne saurais pas prononcer le nom, des milices qui ont effectivement commis des crimes, crimes contre l'humanité, crimes de guerre dans différentes régions du Soudan, notamment au Darfour avec les Janjaweed.
Et c'est la même.
Ce sont les mêmes. Donc, ça, déjà, ça montre un peu justement le fonctionnement de cette junte. En fait, la junte militaire, le conseil militaire qui emploie des milices paramilitaires extrémistes et meurtrières.
Et déterministes aussi.
Déterminés.
Oui, déjà déterminés, en fait. Parce qu'ils viennent, comme vous avez vu, en fait, par exemple, sur la Facebook, en fait, si vous êtes amis sur le site de Facebook, il y a beaucoup de monde, en fait, ils ont montré de vidéos, de beaucoup de vidéos, beaucoup de choses. Il était en direct, en fait, de massacres, en fait, pendant les dispersions de les manifs, en fait, parce que les manifestants, ils ont toujours été pacifiques, en fait. Ils ont jamais pris des armes, ils ont jamais utilisé d'autres moyens, en fait, de violence, jamais. Ils manifestent tout le temps avec beaucoup de pacificité, en fait. Mais les déterminations de ces gens-là, ils étaient arrivés de tirer dessous deux gens. Aujourd'hui, une arrivée de chiffres, en fait, de 113 personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les forces de changement au Soudan, chose qu'au jour aujourd'hui, où il essaye toujours, en fait, d'amener de peuple, en fait, pour la violence. Chose qu'au jour aujourd'hui, ils font beaucoup, beaucoup d'histoires, de parler derrière. En fait, ils essayent, en fait, de solliciter les gens de prendre l'arme pour avoir de prétexte de rester encore avec les violences. Mais les peuples, ils ont bien compris. Tout leur parole, leur appel sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, partout, ils demandent toujours de rester pacifiquement. C'est les dangers. Pour ça, les dangers de cette manif, c'était devant les quartiers généraux et tous les médias internationaux et tous les présentants diplomatiques, ils étaient présents chaque soirée. Ils viennent de regarder. L'ambassadeur des États-Unis, il vient le soir. Barré, l'ambassadeur aussi de France. Tout le monde, ils viennent, en fait, de regarder. Et c'était du lieu, en fait, de changement politique et changement culturel. C'est parce que les peuples, ils ont cru en ce changement. Et ils réclament, ils ont parlé de beaucoup de choses. Et c'était très dangereux pour les conseils militaires. Pour ça, ils ont voulu vraiment de disperser cette lieu parce que c'était danger. Mais ils ont quand même commis les génocides, mais je dis quand même, ils ont commis grande erreur. Parce qu'ils ont dispersé les gens. Les manifs, c'était que devant les quartiers généraux. Aujourd'hui, les manifs, c'est partout dans le Soudan, dans chaque quartier. Et les gens, ils ont bloqué, malgré ils ont coupé le moyen de communication par Internet, tout ça. Bon, on n'est pas montré qu'est-ce qui se passe au Soudan. Au Soudan, aujourd'hui, il est coupé par Internet. Mais les gens, ils ont réussi quand même, aujourd'hui, de faire des barrages dans chaque quartier, de dire non, on est là.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes avec Hassan et Aïssa pour parler de la situation politique au Soudan. Alors là, on a évoqué la raison de la révolte, l'échec des négociations, la violente répression. Alors, Aïssa, tu as parlé aussi de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis. Alors, est-ce que j'ai entendu dire aussi que, en quelque sorte, c'est vrai que le Soudan a le plus grand contingent militaire, le plus grand nombre de militaires dans la guerre au Yémen. L'Arabie Saoudite, le Soudan, c'est aussi une grande terre agricole, donc il y a beaucoup d'investissements de l'Arabie Saoudite dans les terres pour les récoltes. Voilà. Est-ce qu'en quelque sorte, le fait de cette violence-là, très soudaine et brutale, est-ce que ça pourrait être une espèce d'ordre extérieur en disant la démocratie au Soudan, les pays qui ont des intérêts là-bas n'en veulent pas?
C'est bien sûr, c'est les intérêts de les autres qui aujourd'hui c'est poser les problèmes au Soudan. Comme j'ai parlé des Saudi Arabia, des Émirats Arabes et l'Égypte, il fait pas laisser le Soudan tranquille pour développer, pour faire un gouvernement démocratique. Tout ce qu'il y a besoin, c'est pour avoir un dictateur, pour collaborer avec vous dans certains agendas. Voilà, c'est se passe comme ça. Et finalement, c'est le financement derrière. Il s'apporte, voilà, c'est des armes et des financements. Donc, comme ce régime dictateur toujours cherché à rester plus longtemps, guider le Soudan, ça a été comme ça, voilà. Mais l'étape qui s'était très dangereuse aujourd'hui parce qu'il y a une guerre entre le Yémen et le Saudi-Arabie. Cette guerre, ça a été. Nous, il n'y a rien à faire avec cette guerre. Mais le Saudi-Arabie, comme il ne faut pas envoyer ses militaires, c'est chercher des mercenaires. Il a trouvé un terrain au Soudan à cause de cette dictature. Mais le peuple du Soudan n'est pas d'accord avec tout ça. Mais le gouvernement des dictateurs al-Bashir qui était renversé. C'est lui qui a commencé cette collaboration entre dans cet pays. Aujourd'hui, quand ce gouvernement a été renversé le 11 avril, voilà, donc le conseil militaire, il a gardé toujours les mêmes schémas parce qu'il voulait continuer comme ça, les mêmes choses. Parce que c'est toujours les mêmes gouvernements qui n'ont rien changé, mais c'est les personnalités qui sont changées. Donc, c'est pour ça, comme mon collègue Hassan il a dit, c'est le peuple du Soudan, ils ont bien compris. C'est pour ça qu'ils sont restés devant le quartier général des militaires du Soudan, manifestés massivement. Mais on arrive 3 juin, c'était une étape très difficile. Parce que, après cette visite internationale, le conseil militaire, il a changé les têtes carrément, c'est-à-dire changé les idées, commencé à pris en étape, c'est trop dangereux, parce qu'ils ont commencé à envoyer des milices pour attaquer. Ça, c'était le matin du 3 juin 2019, le 29 Ramadan, tous les manifestants des révolutionnaires sont été là-bas, devant le quartier général des militaires du Soudan, pour réparer pour la fin du Ramadan, pour l'Eid. Donc, c'était ça un sorpille, parce que tout le monde était là, des femmes, des enfants, réparer des gâteaux, des manger. Même pour les gens qui sont, pas de maillot, sont tous réunis là-bas. Voilà. Il y a des gens qui sont partis avec leur famille aussi, pour les fêtes. Dans un seul coup, il y a une attaque arrivée, voilà, massivement, massacrer les gens. Mon collègue il a dit que jusqu'à maintenant, c'est 113 victimes. Ils ont été tués, massacrés, sont tirés. C'est des gens, des manifestants pacifiques. C'est des civils, voilà, des victimes. Et il y a beaucoup de gens qui sont portés disparus jusqu'à maintenant. Et pas de nouvelles. Il y a beaucoup qui sont aussi souffrir à cause de la blessure. Jusqu'à la dernière minute, on a parlé de 650 personnes. Que sont s'ouvrir avec leur plaisir. Donc.
Alors là, on a parlé des forces politiques, des puissances qui soutiennent le conseil militaire. De l'autre côté, il y a quand même des pressions qui soutiennent le peuple, l'Union africaine, je sais pas, les États-Unis peut-être, oui, l'Union européenne. Est-ce que ça peut aider à renverser en quelque sorte? À agir en faveur du peuple soudanais.
Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est cet zigzag commis avec des conseils militaires du Soudan, ce n'est pas acceptable, bon, ni pour le peuple du Soudan, ni pour la communauté internationale. Parce qu'en fait, c'est, aujourd'hui, depuis hier, on a parlé dans les médias internationaux des blocages de la siège du Soudan. Le Soudan était un membre de la Union africaine. La Union africaine, son siège a été annulé. À convoquer pour négocier, pour discuter avec. Donc, aussi, du côté des Nations Unies, aussi, il a pris une décision pour organiser un meeting, un sommet urgence pour la question du Soudan. Donc, aussi, les communautés européennes sont bien déclarés aussi si cette continuation des dictateurs militaires est inacceptable. Donc aujourd'hui, le conseil militaire du Soudan n'est pas connu comme un gouverneur pour le pays. Ça, c'est une bonne chose pour le peuple du Soudan, parce que c'est peut-être à pouvoir sortir de ce problème, parce que le gouvernement du conseil militaire aujourd'hui n'est pas connu. Tout ce qui a besoin les gens aujourd'hui, c'est pour avoir un gouvernement civil pendant certains bureaux, des 3 ans ou 12 ans, une transition civile, pour un gouvernement là, stable, avoir des droits de la liberté, des droits de l'homme et de la justice. Voilà.
Ça aussi, c'est une des demandes du peuple, c'est d'avoir un certain temps pour préparer des élections. De ne pas le faire en 2 ans, mais plutôt en 4 ans, ce qui pourrait être un peu contradictoire, pour justement ne pas arriver qu'au bout de 2 ans, ça tourne au vinaigre, comme on dit. On n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais savoir où en est, en quelque sorte, la mobilisation, comment les gens arrivent à s'organiser, et notamment avec les forces syndicales dont tu as parlé tout à l'heure, ou les grands mouvements collectifs, l'Union des professionnels du Soudan, et le mouvement pour la liberté et la révolution. Puis d'une manière globale, comment ça se mobilise encore Après les événements du 3 juin.
Voilà, le peuple du Soudan sont bien respecté leurs règles et des appels ont été faits avec des associations des professionnels du Soudan et aussi avec des forces de la liberté et les changements. Aujourd'hui, après cette attaque qui a été commise le 3 juin, les associations et les forces de changement sont appelées pour bloquer la négociation avec le conseil militaire du Soudan. Donc aujourd'hui, la négociation s'est arrêtée. Et il a appelé les gens pour avoir démarré de grève générale. En fait, c'est démarré. Ça a été démarré, cette grève générale, parce qu'en fait, c'est... comment ça s'appelle tout le service civil, ça a été arrêté. Même l'aéroport.
L'aéroport.
L'aéroport du Soudan, ça a été bloqué aussi en convoyage. Ni arrivé, ni parti, voilà. Donc... ça avance bien. Hier, on a attendu le vice-président du conseil militaire, Mohamed Hamdan Hamidi. Il a parlé, chercher à trouver un maillon pour négocier ou pour continuer les négociations, mais les gens n'ont pas accepté parce que les gens ont perdu de confiance maintenant. C'est aucune confiance sur ce conseil militaire. Tout ce qu'il y a besoin les gens aujourd'hui, c'est pour faire renverser ce conseil militaire. Et pour avoir un gouvernement civil pour les suites. Un coup de limite maintenant. Ils continuent à faire les grèves générales.
Je voudrais juste rappeler tout le monde, en fait, parce que c'est les dernières informations aujourd'hui. En fait, c'était vers 14h. Vers 14h cet après-midi, le président éthiopien, il est venu au Soudan pour jouer un rôle d'intermédiaire pour continuer, en fait, les négociations entre les forces, entre les conseils militaires et l'opposant qu'il réclame les démocraties, les démocraties et de gouvernance civile. Aujourd'hui, ils sont venus, mais jusqu'au moment, les gens, ils avaient mal au corps. En fait, ils avaient très très mal. Qu'est-ce qui se passait en fait dans 2 jours? En fait, vraiment, c'était des massacres énormes. On ne peut pas faire confiance de choses comme ça. On ne peut pas mettre la main de gens. Ils ont tué des autres. Ils ont mis les sang comme ça de gens innocents. C'était sans armes, sans rien. Des jours très importants pour les communautés musulmanes au Soudan. En fait, c'était les 29 Ramadan, dernier jour avant l'Aïd. Et les gens, ils avaient vraiment très mal de ça. Aujourd'hui, on parle de 113. Mais les chiffres, il est plus important que ça, parce qu'il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses. Ils ont même arrivé au moment de jeter de corps et de cadavres dans le Nil.
De pierres, ouais.
Et de jeter avec, avec des pierres pour que le corps ne flotte pas, en fait. C'est énorme. Aujourd'hui, ils ont trouvé 16 corps le matin, en fait. C'est toujours, on trouve toujours, en fait. Pour ça, les peuples, ils sont encore dans le choc, mais ils n'avaient pas la confiance pour cette conseillère militaire, comme t'expliquais, Luc. Nous, c'est vraiment, en fait, d'avoir des conseils, mais avec des minorités militaires, de donner, en fait, les sécurités pour résoudre tous les problèmes de milices, comme... Les forces d'intervention rapide comme les Janjaweed aujourd'hui dans la capitale. Et on est de 11 milices au Soudan. Il faut résoudre ce problème, avoir le problème de sécurité et parler aussi de constitution. Qu'on peut avoir de constituer tous les partis politiques. Pendant 30 ans, on était gouverné par ce gouvernement, gouvernement de dictature. En fait, on n'a pas les possibilités. Je précise encore. Soudan, il a pris l'indépendance de 1956 jusqu'à aujourd'hui. Les partis politiques, ils ont gouverné que 9 ans pendant 63 ans. C'est énorme, c'est pas normal. On n'est pas formé pour gouverner encore. Pour ça, il faut qu'on envoie, on aura le temps, on aura 3 ans ou 4 ans pour arriver quand même d'installer la démocratie à le peuple.
Merci Hassan, merci Aïssa. Bon, c'est l'heure de terminer notre émission, ce micro Rebelle Hebdo. Salut à ceux qui nous écoutent du Soudan ou d'ailleurs via le net. On souhaite bonne chance et courage au peuple soudanais pour réussir à arriver à leur fin. Voilà, micro Rebelle Hebdo, retrouvez-nous sur le net ou alors sur les ondes de nos amis Radio PFM et Radio Plus. À la semaine prochaine. Salut à toutes et à tous. On se quitte en musique.
Merci.